see politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Voici l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, Valentine Saboureau nous raconte l'histoire d'Eugène Weidmann, le dernier condamné à avoir été exécuté en place publique en France. Ce fut à la guillotine, évidemment. Récit avec les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, incluant le témoignage de l'acteur Christopher Lee.
Le député guillotin dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine.
17 juin 1939, le jour se lève sur la promesse d'un spectacle sensationnel, puisque le tueur en série Eugène Weidmann doit être guillotiné à Versailles. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. En lieu et place de la discrétion souhaitée par le gouvernement, une foule se presse pour assister à l'événement, lui offrant une publicité telle qu'elle signera la fin des exécutions publiques en France. Qui est cet assassin destiné à l'échafaud ? C'est un Allemand né à Francfort en 1908, dans une famille bourgeoise. Passé par une maison de correction dans sa jeunesse, il multiplie les forfaits en Allemagne et au Canada jusqu'à sa rencontre en prison avec deux malfrats français, Roger Million et Jean Blanc. Ensemble, ils décident de profiter de l'exposition universelle de 1937 pour kidnapper de riches visiteurs et exiger des rançons. Là, les victimes ne sont pas si riches et surtout, elles ne seront jamais rendues vivantes. Elles sont toutes tuées et détroussées. Arrêté brutalement pour son sixième meurtre, Eugène Weidmann avouera les cinq autres, sans toutefois dénoncer ses complices qui se rendront seuls. Le procès se déroule en mars 1939 devant la cour d'assises de Seine-et-Oise. Weidmann est notamment défendu par un ténor du barreau, maître Vincent de Moreau-Giaferi, qui a aussi été l'avocat de Landru. Le feuilleton judiciaire est suivi avec avidité par la presse, y compris l'écrivaine Colette, envoyée par Paris Soir avec une casquette de journaliste. Elle décrit ainsi le prévenu. Est-il sain d'esprit, le garçon aux longs cils qui soignait ses rosiers ? Ou bien est-il sadique, porteur d'un invisible cilice qui le brûle de félicité ? Trop tôt apparu au monstre légendaire, il n'est déjà plus qu'un entrepreneur de disparition qui n'a pas réussi et qui est bien embêté. Le jeune homme a en effet de belles manières et un regard de velours qui séduit la gente féminine qui se pâme devant l'assassin. Cela ne pèsera évidemment pas dans la balance. Il est condamné à mort et le président Albert Lebrun refusera de le gracier. Le châtiment est prévu en place publique, comme le veut la tradition, le 17 juin 1939 et la foule se prépare déjà à la fête. Un magistrat, présent ce jour-là, témoignera des années plus tard dans 7 sur 7.
Mais ce qui était affreux, je ne sais pas si c'était la même chose dans d'autres circonstances, c'était l'espèce de fête que cela représentait. Depuis plusieurs jours, sur la petite place, toutes les fenêtres étaient louées. Tous les cafés avaient ouvert. Une foule était aux fenêtres qui avait festoyé toute la nuit et qui attendait le moment de l'exécution.
Le solstice d'été arrive. Cela a-t-il été mal anticipé ? Le montage de la guillotine a-t-il été plus compliqué que prévu ? En tout état de cause, l'exécution n'a pas lieu comme d'habitude au point du jour. Lorsque le condamné à mort paraît, le soleil est déjà bien sorti et la visibilité est parfaite, y compris pour les photographes et cinéastes amateurs. L'acteur Christopher Lee, dès 7 ans à l'époque, était au milieu de la foule. Il est revenu sur son expérience sur France Culture en 1998.
Les portes s'ouvraient du prison. Il est sorti, chemise blanc, pantalon, je crois les pieds nus, je ne me rappelle pas très bien, mais je crois. Et les mains ligotées, la chemise déchirée, avec un homme sur chaque bras. Très vite, il y avait deux messieurs qui attendaient à côté de la machine. Un monsieur, pas petit mais pas grand, qui était sans doute des fourneaux. Et à côté de lui, je pense, un autre qui était, je crois, André Obrecht. qui était devenu le bourreau après de Fourneau. Tout était arrangé. Il avait le panier, il avait la bascule, la lunette, tout ça, l'alarme, tout ça, incroyable. Et puis, heureusement, j'ai pas vu. J'ai tourné la tête. Mais j'ai entendu la descente de l'alarme. Parce qu'il y a du bruit, vous savez. Et puis, boum.
Le lendemain, le récit de l'exécution dans la presse raconte le chaos, ou tout du moins le désordre. On rapporte par exemple que la foule a débordé les forces de police et que des femmes se seraient précipitées pour étancher leurs mouchoirs avec le sang du condamné. Des photos circulent et même un film. Le premier ministre de l'époque, Édouard Daladier, décide alors de reléguer l'usage de la guillotine à l'intérieur des prisons. Désormais, le peuple ne pourra donc plus assister avec effroi et fascination à ce spectacle sanglant censé les dissuader de commettre le pire. Le dernier condamné à mort, exécuté à la guillotine en France, s'appelle Hamida Djandoubi. Sa sentence est appliquée le 10 septembre 1977 dans la prison des Baumettes à Marseille. Par la suite, d'autres criminels seront condamnés à la peine capitale, mais aucun ne sera plus exécuté. La peine de mort est abolie en France en octobre 1981.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.